Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En France, un homme déjà condamné pour 12 viols a avoué le viol et le meurtre d'une fille de 15 ans. Le 20 août dernier à Nantes, condamné à 18 ans de réclusion criminelle, il avait été libéré après 11 ans de prison. C'est un échec pour la société, a déclaré le procureur adjoint de Nantes, Yvan Olivier. En 2005, le suspect avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour des viols entre 2001 et 2003 dans différents départements. Libéré en 2016, il respectait ses obligations socio-judiciaires, selon le procureur, disant qu'il est venu à Nantes où il avait fait des repérages dans le but de passer à l'acte. En France toujours, une adolescente musulmane de 17 ans, originaire de Bosnie-Herzégovine, a été tondue et frappée par sa famille à Besançon pour avoir eu une liaison avec un jeune chrétien d'origine serbe. La police a placé en garde à vue les parents, l'oncle et la tante qui seront jugés pour violence en réunion sur mineurs et en présence de mineurs. Les deux jeunes s'étaient rendus chez la famille de la fille accompagnés des parents du garçon. Il y a alors eu un déferlement de violence. Elle a été emmenée dans une chambre, violentée et tondue par son oncle tout en étant frappée, a détaillé la vice-procureure Margaret Parietti. Les parents sont aussi poursuivis pour avoir frappé leur fille depuis leur arrivée en France il y a près de 3 ans. La victime a été placée sous protection judiciaire. Un Iranien a été condamné à 9 ans de prison seulement pour avoir décapité sa fille de 14 ans dans son sommeil, a indiqué le 28 août 2020 la mère de la victime, réclamant l'exécution de son mari. Le meurtre le 21 mai de Romina Ashrafi, infanticide et fémicide au relent de crime d'honneur, a provoqué l'indignation en Iran. Des médias ont dénoncé une violence institutionnelle dans une république islamique patriarcale. Après avoir essuyé un refus paternel à sa demande de mariage, l'adolescente serait partie avant d'être retrouvée à la suite d'une plainte de son père. Après son interpellation, Romina avait dit au juge qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle, affirmant craindre pour sa vie. L'avocate turque Ebru Timtik est morte le 27 août 2020 à Istanbul après 238 jours de grève de la faim pour réclamer un procès équitable. Madame Timtik a été condamnée en 2019 à plus de 13 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Un hommage lui a été rendu devant le barreau d'Istanbul avant une prière collective de centaines de personnes dans un semevi autour duquel avait été déployé un important dispositif policier. Son sort tragique illustre douloureusement le besoin urgent de traiter de manière crédible la situation des droits humains dans le pays, a déclaré la Commission européenne. Ce décès est une honte pour l'histoire de la justice turque. Turque s'est indigné le barreau d'Istanbul.
Parole de femme.
Cela fait plus d'un siècle que les Américaines ont obtenu le droit de vote. Le 19e amendement de la Constitution, présenté au Congrès en 1878, aura mis plus de 40 ans pour être adopté et ratifié par les trois quarts des États, le 18 août 1920. Je relate ici un reportage de Déborah Bloch qui revient sur l'histoire du droit de vote des femmes américaines. Les féministes américaines ont ardemment défendu le droit de vote des femmes aux États-Unis au cours d'une longue et difficile lutte qui s'est étendue du 19e au 20e siècle. À l'instar des suffragettes européennes, elles ont subi les sarcasmes et ont fait l'objet de maintes caricatures dans la presse au début de leur combat. Andrea Descoteur, directrice intérimaire du Parc national historique des droits des femmes.
Il y a eu beaucoup de mépris et de ridicule envers ces femmes.
La première convention sur les droits des femmes s'est tenue en 1848 dans une église de Seneca Falls dans l'État de New York. Au cours de ce rassemblement, les délégués ont rédigé un document appelant au droit de vote des femmes.
Elles ont dit « Tous les hommes et les femmes sont créés égaux », une devise empruntée à la Déclaration d'indépendance, à laquelle elles ont apporté une modification très importante en ajoutant « et les femmes ».
The night bird calls and shadows creep into my mind.
En 1848, la ségrégation raciale était en vigueur aux États-Unis. Les femmes noires ont eu un double défi à relever pour le droit de vote. Lutter contre les stéréotypes sexistes et raciaux. Martha Jones, professeure d'histoire à l'université Johns Hopkins.
À travers leurs propres organisations, associations anti-esclavagistes, conférences d'église et organisations de défense des droits civiques, les Africaines-Américaines ont développé leur propre mouvement au cours des deux derniers siècles.
Alors que le rôle des femmes évoluait au début du XXe siècle, la nouvelle génération a poursuivi la lutte en intensifiant les manifestations et en organisant des défilés, des veillées silencieuses et même des grèves de la faim. Hélène Carole Dubois, historienne du droit de vote des femmes.
Go out into crowds.
À cette époque, elles se posaient sur des petits tabourets aux portes des usines à l'heure du déjeuner et prononçaient des discours populaires sur le droit de vote des femmes afin de rallier un public masculin.
En 1918, le président Woodrow Wilson a changé sa position pour soutenir le 19e amendement qui a été ratifié 2 ans après. Cependant, encore aujourd'hui, de nombreuses femmes noires se sentent exclues du processus électoral. Pour Eleanor Smil, présidente de la Fondation de la majorité féministe, ces inégalités peuvent être résolues par le 27e amendement de la Constitution sur l'égalité des droits entre hommes et femmes, introduit pour la première fois au Congrès en 1923 par la féministe Alice Paul.
L'amendement proposé dit que vous ne pouvez pas discriminer sur la base du genre. Et cela s'appliquerait au gouvernement fédéral, à toutes ses politiques et aux 50 États.
À ce propos, le président américain Donald Trump a accordé une grâce présidentielle à titre posthume à Suzanne Anthony, une suffragette américaine condamnée pour avoir glissé un bulletin dans l'urne lors de la présidentielle de 1872, alors que les femmes n'avaient pas le droit de voter. La grâce a coïncidé avec le 100e anniversaire de la ratification du 19e amendement de la Constitution américaine qui a finalement permis aux femmes de voter aux États-Unis le 18 août 1920. En 1872, Suzanne Anthony avait été reconnue coupable par un jury entièrement masculin et condamnée à une lourde amende. Elle est morte en 1906, soit 14 ans avant l'aboutissement de son combat. En Afrique, comme nous le savons, nombreuses sont les femmes qui consacrent leur vie à aider les plus vulnérables. Ces héroïnes du quotidien, aussi remarquables soient-elles, ne bénéficient généralement d'aucune reconnaissance et disposent de peu de moyens, faute d'accompagnement des autorités publiques. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, a rencontré une de ces grandes dames qui s'investit dans le développement d'innovations technologiques pour soutenir ses sœurs africaines.
Elle s'appelle Sherifatou Agumour. Âgée de 28 ans, elle travaille pour l'ONG Care Niger, où elle initie et développe des innovations numériques pour appuyer les différents projets de son ONG afin d'accélérer leur impact auprès des bénéficiaires. Un travail qu'elle trouve très gratifiant.
Quand on se dit qu'on a aidé à changer positivement les vies des personnes comme nous, qui ont eu peut-être moins de chance que nous, de naissance, de ne pas être venu dans un environnement peut-être aussi propice, je pense que c'est très gratifiant. Juste de voir leur sourire, de savoir qu'on a contribué à rendre leur vie meilleure, c'est ce qui me plaît le plus dans ce travail.
La dernière innovation que Sherifatou a mise au point se nomme MMD Labari.
C'est une plateforme de renforcement de capacités et de sensibilisation à distance en langue locale et en français. Avec la COVID-19, c'est la distanciation sociale qui est préconisée comme l'une des principales mesures préventives. L'outil numérique se positionne comme un moyen efficace et fiable et sécurisé et plus sain de pouvoir mener ces activités-là. C'est donc dans ce cadre qu'on a lancé cette plateforme digitale qu'on a nommée MMD Labari, donc Labari de la langue Hausa qui veut dire information. Mais pas seulement que sur le Covid, parce qu'il y a d'autres thématiques qui viennent avec ce Covid-là, notamment la VBG, la violence basée sur le genre. Avec le confinement, on se rend compte que c'est quelque chose qui a accru. On rencontre plus de cas de violence basée sur le genre. Et c'est aussi un moyen, une opportunité qu'on a donnée aux femmes pour pouvoir dénoncer ces cas de violence-là.
Au contact des bénéficiaires de ces innovations, Sherifatou recueille régulièrement des témoignages qui sont révélateurs des impacts des actions du projet.
Il y a une femme qui m'a dit, elle est très contente de ce projet parce qu'au-delà des avantages, on va dire, immédiats et directs que va leur apporter le projet, elle pense que c'est un empowerment pour elle-même. C'est une préparation pour le futur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le futur, il est digital. Donc, elle se dit, le fait maintenant qu'on les forme sur ces thématiques de mobile money, sur comment utiliser le téléphone, c'est pour elle-même. Elle se rend capable au fait de suivre cette transition. Elles ne vont pas la subir, mais pouvoir l'adopter.
Des héros comme Sherifatou, la communauté humanitaire nigérienne en regorge. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Si jeunesse pouvait.
Le Tour de France promet un homme et une femme pour remettre les maillots sur les podiums d'arrivée, mettant fin à la pratique sexiste des misses. L'annonce a été faite par le directeur du Tour, Christian Prudhomme, le 29 août. Dorénavant, le champion sera entouré d'un seul élu et d'un seul représentant du partenaire du maillot jaune, ainsi que d'une hôtesse et d'un hôte. Une pétition en 2019 avait recueilli 38 000 signatures, estimant que les femmes ne sont pas des récompenses. Monsieur Prudhomme n'a pas précisé s'il mettait fin à la tradition du bisou au vainqueur. Mais le contexte sanitaire semble avoir eu raison de cette autre pratique décriée. Mmh.
monde au féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Cameroun, des programmes agricoles redonnent de l'espoir aux jeunes diplômés qui peinent à trouver du travail. Quatre jeunes sous la houlette de l'association dénommée Un diplômé, un champ se sont lancés dans ce type de projet. Les bénéficiaires des diplômés de l'enseignement secondaire et universitaire sont formés à la pratique des activités agro-pastorales. Plus de 3000 jeunes se sont déjà intéressés à cette initiative. Un reportage d'Emmanuel Juntap à Yaoundé.
L'association Un diplômé, un champ exploite les terres. Sur 1,5 hectare dans la localité d'Aquamaria, une banlieue située à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé. Le site sert de champ témoin dans le cadre du projet. C'est sur l'un de ces espaces que nous rencontrons Ahmed Ngo, étudiant en troisième année physique à l'université de Yaoundé 1. Il est payé par l'association pour effectuer uniquement certains travaux dans ce champ.
Je passe 3 jours au travail. On vient à 7h, pratiquement à 15h, on quitte les lieux. Pour l'instant, nous sommes dans un champ de maïs. Nous sommes en train d'enlever les herbes. Les jours précédents, j'étais en train de faire les pastèques.
L'association Un diplômé, un champ encourage les jeunes à mutualiser leurs initiatives de projets agro-pastoraux. Roberto Gracias Bakina, secrétaire exécutif de la dite association, nous conduit dans un champ communautaire créé à cet effet.
C'est un champ de maïs où il y a 4 jeunes qui ont mis de leurs moyens et qui viennent de temps à autre pour faire de la pratique agricole. Et à la fin, à un diplômé, un champ, nous allons racheter la production.
Les 4 jeunes réunis pour la production de maïs dans ce champ ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à projet lancé sur les réseaux sociaux. Alain-Georges Lietbourg, promoteur de l'association Un diplômé, un champ.
Nous disons par exemple que nous comptons mettre sur pied 1 hectare de maïs. Nous avons besoin des jeunes passionnés ou alors qui ont besoin d'investir dans ce domaine, qui se mettent ensemble, nous les organisons. Nous avons pu lever un peu plus de 700 000 francs CFA qui va nous permettre de financer ce champ. On a commencé avec le maïs, on est en train de mettre actuellement les poquets pour la pastèque. Le terrain se prépare également pour mettre les concombres. Ils ont tellement été contents par cette initiative qu'aujourd'hui nous demandent encore de lancer l'autre projet sur l'élevage de poulets.
Plus de 3 000 jeunes, selon les responsables de l'association, ont marqué leur intérêt pour l'initiative. 5 sessions de formation à l'agriculture et à l'élevage de poulets de chair ont été organisées en faveur de certains jeunes, parmi lesquels Souleymanoum Fouakier, ingénieur électrotechnicien.
Mon champ expérimental qui va sur une superficie de 2 hectares, c'est sur le maïs et les concombres. Nous sommes en train de faire face à une pandémie mondiale. Nous risquons de faire face à ce qu'on va appeler la famine. Donc c'est donc pour prévoir ce risque de famine que nous pensons que la meilleure voie présentement serait celle de l'agriculture.
Les jeunes affluent de plus en plus au siège de l'association Un diplômé, un champ, au quartier Oufoulane, dans le 3e arrondissement à Yaoundé. Marcus Médard Nganbe est titulaire d'un Master 2 en physique et s'apprête à démarrer un projet d'élevage et de poulets de chair.
Je compte commencer avec 100 sujets et je serai encadré par l'association Un diplômé, un champ.
Le Cameroun a un riche potentiel agricole. Le pays dispose de 71 250 km de terres arables, dont seulement 29% sont jusqu'ici exploités. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Soit les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Le Festival international du film de Berlin ne récompensera désormais plus les acteurs séparément selon leur genre, afin d'éviter toute hiérarchie entre hommes et femmes. À partir de 2021, les récompenses d'ours d'argent seront décernées pour les meilleures performances dans un rôle principal et secondaire, au lieu de meilleure actrice et meilleur acteur. Avec les festivals de Cannes et de Venise, la Berlinale est l'un des plus grands festivals de cinéma au monde. Elle se tient annuellement en février dans la capitale allemande, Berlin. À Sévaré, au Mali, de nombreuses femmes victimes de déplacements forcés à cause de l'insécurité dans la région de Mopti se retrouvent dépourvues d'activité, donc sans le moindre revenu. Pour permettre leur insertion socio-économique, l'ONG Nieta Conseil forme quelques-unes d'entre elles, notamment dans la transformation de produits locaux. Un reportage de Mamoudou Bokoum.
Ces 20 femmes qui ont bénéficié de cette formation viennent des 4 sites de déplacés de Sévaré. Elles sont toutes là à cause de la crise sécuritaire qui sévit dans la région de Mopti. Abdoulaye Keïta, du projet Nieta Conseil, initiateur de la formation, explique leur motivation.
Nous avons constaté qu'une fois arrivés à Sévaré, on rencontre des femmes déplacées internes dans les rues et dans les gares routières en train de commander. C'est pour cela que nous avons initié cette formation sur la technique de transformation des produits locaux, ce qui leur permet de mener leur propre activité sans aller commander qui que ce soit.
Cette formation est basée sur des activités permettant à ces femmes déplacées de générer des revenus. Madame Diallo Aïssata Traoré est la formatrice.
Elles vont apprendre la technique de transformation des produits locaux. Après la formation, elles seront toutes dotées des kits de transformation et une somme d'argent leur permettant de mener leurs propres activités. Il y a un adage de ce nous qui dit: au lieu d'habituer quelqu'un à venir manger tous les jours du poisson, apprends-lui à pêcher lui-même. C'est ce que nous avons fait.
Après la formation, les 20 femmes déplacées sont dotées chacune des kits de transformation des produits locaux plus un montant forfaitaire, ce qui facilite leur insertion socio-économique, d'où la satisfaction des bénéficiaires.
Je m'appelle Aminata Ongoiba, je viens de Bouni. Ce qu'on vient d'avoir comme formation est capital pour nous. Ça peut nous servir vraiment dans le futur. Nous avons appris la préparation de plusieurs types de plats. On a appris également comment transformer des produits locaux. Je m'appelle Aminata Sou, je viens de Bankassa. Ce travail qu'on vient d'apprendre nous permet de mener des activités génératrices de revenus. Nous pouvons nous payer du savon. Même nos enfants qui vont à l'école peuvent avoir des matériels didactiques avec ce revenu. Nous sommes vraiment contentes. Je m'appelle Maria Kino. Ces matériels vont nous permettre de subvenir à nos besoins. En tant que mère de famille, tu peux tomber malade. Tes enfants aussi. Si tu peux générer tes revenus pour toi-même, c'est très bien. Vraiment, cette acquisition nous va droit au cœur.
Selon elle, c'est une épine de moins dans leurs pieds, mais leur plus grande préoccupation, c'est de voir la fin de la crise afin de pouvoir rentrer chez elles. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!